Phil PM. Politique.
C'est une relation importante pour le Canada. Une relation si grande et complexe comme la relation entre le Canada et la Chine, il y a toujours des moments plus difficiles.
Très Phil PM.
Ouais, ça s'appelle, parler très diplomatiquement d'un gros problème qu'on a avec les Chinois. Et pour en discuter, on a aujourd'hui Daniel Leblanc, le journaliste du Globe and Mail. Bonjour Daniel.
Bonjour Bernard.
Et Paul Journet qui est avec nous pour parler de la politique québécoise et éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Daniel, donc les gens auront compris que tu prends le relais de Carl pour aujourd'hui. Parle-nous donc de cette difficile relation avec la Chine de ces temps-ci. Là. Surtout que ça se détériore là, hein?
Oui, ça va mal. Donc, il faut pas s'en cacher. Madame Freeland essaie de dire que c'est normal, mais on est dans une situation plutôt extraordinaire. Là, le Canada, au moins, l'ambassadeur du Canada a eu accès à un des détenus canadiens aujourd'hui. Ça lui a pris 4 jours. Quand le Canada a arrêté Meng Wanzhou, on a donné l'accès consulaire tout de suite aux Chinois. Donc, on voit que c'est une réplique chinoise, mais ils traitent les Canadiens un peu moins bien que les Canadiens. Canadiens traitent les Chinois de ce temps-ci. Et là, donc, ça affecte aussi les relations à beaucoup de niveaux. Aujourd'hui, on a appris que Mélanie Joly a annulé un voyage en Chine. Donc, il y a beaucoup de touristes chinois qui viennent au Canada. Le Canada les aime. Ils dépensent beaucoup d'argent ici. Il y en a un nombre croissant. La ministre du tourisme, Mélanie Joly, devait célébrer l'année Canada-Chine en termes de tourisme, mais ce voyage-là a été remis à plus tard. On fait semblant que c'est les deux pays ont décidé mutuellement que c'était mieux d'attendre un peu, mais on s'entend qu'il y a des tensions en ce moment.
Il y en a qui vont dire le fait qu'elle annule son voyage en Chine, c'est peut-être pas une grosse punition pour les Chinois, là.
Oh, ça serait les mauvaises langues.
OK. Mais ceci dit, c'était assez frappant de lire la justification qui nous a été transmise pour justifier l'annulation. C'était comme, ah ben là, écoutez, on s'est parlé, les Chinois et nous, puis on a convenu que finalement, c'était pas le bon moment.
Exactement. Et puis, il y a Canada Goose aujourd'hui aussi qui a décidé que finalement, eux pensaient ouvrir un magasin en Chine cette fin de semaine. Ils ont décidé eux aussi mutuellement que c'était peut-être mieux de pas faire ça tout de suite. Donc, c'est un peu comme si le Canada a vraiment mauvaise presse en Chine de ce temps-ci. Et dans le fond, le Canada est pris entre la Chine et les États-Unis. Donc, c'est une demande d'extradition que les Américains ont faite. Les Canada, les Boy Scouts à l'échelle internationale ont bien obéi aux Américains, ont accédé à la demande, ont arrêté Meng Wanzhou. Mais maintenant, on en souffre des conséquences. Donc, en termes de tourisme, en termes de commerce aussi, là, avec Canada Goose, on sait que c'est des produits de luxe, oui, très populaires en Chine. Et le magasin, finalement, va attendre un peu avant d'ouvrir.
Là, Mme Freeland est à Washington. Elle fait un point de presse à 13h10. On peut penser qu'elle va devoir répondre à un certain nombre de questions. Dis-nous, Daniel, en terminant sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu entends à Ottawa? Est-ce qu'il y a une piste d'atterrissage dans cette histoire-là? Parce que pour le moment, on ne la voit pas. On comprend que le système de justice au Canada est indépendant, ce que les Chinois n'ont pas l'air de comprendre ou veulent pas comprendre. Donc on est pris avec une demande d'extradition. On a fait ce qu'on fait d'habitude, sauf que là, les conséquences sont très, très, très importantes. Y a-t-il une façon pour le Canada de sortir de ça?
Et les Américains n'ont pas aidé. Donald Trump a laissé sous-entendre que lui pourrait intervenir dans le dossier. Donc, pendant des jours, le Canada a essayé de dire, écoutez, c'est une décision légale des autorités, des forces de l'ordre. Il n'y a aucune intervention politique de possible. On est dans un état de droit. Et le lendemain, Donald Trump a dit, ben, écoutez, moi, si ça me donne un meilleur accès au marché chinois, je vais intervenir pour la libérer, moi, cette femme-là. Donc, les Canadiens sont pas du tout heureux de cette déclaration-là de Donald Trump. C'est pour ça que Christopher Freeland, aujourd'hui, était là-bas, le ministre de la Défense aussi, Arjit Sejan était à Washington et vont sûrement soulever ce dossier-là, mais en même temps, eux non plus ne veulent pas avoir l'air de faire de l'interférence politique dans ce dossier-là. Donc, est-ce que la prochaine étape, c'est que Justin Trudeau appelle son ami Donald et lui demande de se rétracter? Il n'y a pas de bonne piste de sortie et en ce moment, le Canada souffre donc dans ses relations avec les États-Unis et avec la Chine, un peu pris entre l'arbre et l'écran.
C'est vraiment un méchant trou de ce m'a laissé les auditeurs finir la phrase. Écoute, il nous demande de l'arrêter pour pouvoir l'extrader vers les États-Unis. Et Trump, une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'on a, on a été bons joueurs, Trump dit, savez-vous quoi? Je vais travailler là pour la faire libérer, mes amis chinois. Je suis avec vous autres dans le fond, là, alors que c'est son gouvernement, son État qui nous demande de faire le sale boulot pour eux autres.
Ouais, et des fois, ça donne l'impression que Donald Trump aime mieux faire affaire avec des dictateurs ou les dirigeants qui ont des pouvoirs absolus sur à peu près tous les éléments de leur gouvernement. C'est beaucoup plus facile de faire affaire avec des dictateurs qu'avec un pays comme le Canada où on essaie de respecter des règles. Merci. Et donc, on sent des fois que Trump est plus à l'aise avec le président chinois ou le président de la Russie dans ses tractations qu'avec le gouvernement du Canada où on fait de la politique, il faut, on essaie d'avoir des appuis, etc. C'est un peu aussi sa relation entre Donald Trump et la presse. Lui, il aime beaucoup mieux peut-être les pays où on contrôle un petit peu plus la presse qu'au Canada, par exemple.
Ça se pourrait.
Et qu'aux États-Unis.
Ça se pourrait. Paul Journet, bonjour.
Bonjour. C'est incroyable, hein, cette histoire-là, à quel point on est pris avec un problème là, qui n'était pas du tout le nôtre. C'était pas notre histoire. Là.
Pas
c'est une affaire de coïncidence, de transfert, de vol, puis on est pris avec une crise, puis on essaie de se dépatouiller avec ça là, de notre mieux, mais...
Oui, c'est ça, c'est ça. Être un bon yarb, des fois, là. C'est quoi l'expression en anglais? Good guys finish last?
Oui.
Hein, les bons, des fois, les bons yarb se font avoir, se font rouler
on
dans le
on dort bien, par exemple.
Oui, c'est vrai qu'on dort mieux. On se lève le matin, puis on se regarde dans le miroir. Sais-tu quoi, Paul? On va s'arrêter, parce que t'as tout un sujet que tu veux développer à partir de la déclaration de François Legault comme quoi il veut éviter au Québec ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes. Et
exact.
Je pense que ça mérite plus que juste 30 secondes.
J'ai une intervention en 19 arguments, Bernard, donc on procédera dans l'ordre après la pause, s'il te plaît.
Oui, OK. Mais tu sais qu'on finit à 13h, hein?
Parle pour toi.
Puis, il est de plus en plus... c'est quoi ça? C'est haïssable, baveux? Un peu. Un petit peu, Paul Journet. Regarde-moi dans les yeux. Il fait son haïssable, vraiment. De retour donc avec Daniel Leblanc, journaliste du Globe and Mail, qui prend le relais de Carl aujourd'hui, et Paul Journet. Tu veux que je te lance comment, toi?
Écoute, tant que ça ne me fait pas trop mal. Non, mais sur François Legault et les Gilets jaunes, donc François Legault a fait quelques interviews de fin d'année.
Oui.
Et il disait, attention, regardez ce qui se passe en France.
Oui.
Vous voyez ce qui se passe quand on essaie d'aller trop vite avec des mesures d'éco-fiscalité punitive du genre... taxer l'essence, ça fait mal au monde ordinaire, entre guillemets.
Qui sont déjà à côté sa
boule. Exact. Puis vous voyez jusqu'où ça a mené, les Gilets jaunes.
Mais il y a raison de dire ça, Paul.
Il n'y a pas tout à fait tort, mais il y a quand même des nuances qu'on doit faire entre la situation de la France et du Québec.
Oui.
La première, François Legault, j'imagine qu'il serait d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas tout à fait l'arrogance d'Emmanuel Macron. Hein? C'est quand même le président qu'on qualifie de jupitérien. Il y a des airs hautains, assurément plein de déclarations. Là, à la
un
limite,
peu méprisantes.
Un peu beaucoup passionnément méprisantes. Oui. Tu as des inégalités de revenus en France et aussi une certaine historique d'inégalité plus de classe que tu n'as pas, que tu as moins au Québec. Puis l'économie québécoise roule mieux quand même que l'économie française. Et aussi le prix de l'essence. Il faut quand même le rappeler. Aujourd'hui, je suis allé faire un tour sur le site de la CA tantôt et 1,14 $ à Montréal en moyenne, alors qu'en France, le prix moyen, 2,17 $ canadiens le litre d'essence.
Pratiquement le double.
Presque le double. Donc, il y a quand même une grosse différence.
C'est des bons arguments.
C'est vrai que le Québec, la fiscalité est très lourde et qu'il y a plein de familles qui, à chaque fin de mois, qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc,
mais Paul sait que c'est pas juste des mots, ça, hein? Je prétends pas que tu dis que c'est juste des mots,
mais
c'est parce qu'on le dit ça là même. C'est un peu théorique des fois là, de la façon. Mais je te le dis là, quand arrivent des augmentations, des petites augmentations, mettons pour le prix de la viande ou pour ou enfin la viande, enfin le prix va baisser, mais c'est des fruits et légumes là, dont les prix vont monter. Là. Puis c'est des petits montants sur une base annuelle. Là. Mais si tu voyais les réactions des gens,
je sais.
Les gens qui me disent, garde, j'arrive déjà plus. Puis ça, là, ça veut dire que je vais être obligé de couper là, dans l'essentiel, dans le nécessaire.
Moi, je suis tiraillé entre deux positions. D'une part, je suis sincèrement empathique par rapport à ça. Mais d'autre part, si on revient au cas spécifique des voitures, reste que les Québécois achètent de plus en plus de voitures Et les modèles qu'ils choisissent sont de plus en plus gros.
C'est vrai.
Donc, s'ils trouvent que l'essence est trop chère, ben, ils le cachent bien avec leur comportement parce qu'ils continuent de s'endetter. Puis ça, à chaque année, Pierre-Olivier Pinault, DHEC, publie l'état de l'énergie. Puis on peut l'entendre qui résume, écoute, le problème des émissions de gaz à effet de serre puis le problème économique des voitures.
Ça, c'est la tendance probablement la plus préoccupante parce qu'on n'achète pas un véhicule juste pour un an, surtout des VUS, des pick-up, on les achète pour une dizaine d'années. En fait, on vend des quantités records de VUS. La tendance s'est même accélérée ces 5 dernières années.
OK. Alors donc?
Ben, lui, il dit qu'il faut être prudent avant d'y aller avec des mesures trop punitives, mais je te donne juste un exemple oui. de mesure qui a rapidement été écartée par le gouvernement Legault qui pourrait être intéressante, le bonus-malus. Oui. Ce que ça veut dire, c'est que tu taxes les véhicules, les gros cylindrés, mais tu donnes un rabais pour les petits modèles. Ouais, mais donc, là, les gens qui achètent des petites voitures, souvent qui ont des revenus moindres, mais eux, t'es aides. Donc, il y a la carotte puis le bâton.
Oui, mais le monde achète de plus en plus des gros véhicules. Fait que tu es en train de proposer que le monde paye plus de taxes sur les véhicules qu'ils achètent présentement.
Que à moitié. Je suis en train de te dire, ceux qui achètent de petits véhicules, je veux les aider.
Oui, oui, j'ai compris.
Donc, c'est un jeu à somme nulle. Tu aides certaines personnes, tu pénalises les autres.
Tu viens de nous faire entendre une clip qui confirme qu'on achète des cylindrées de plus en plus grosses.
Oui.
Tu dis il faudrait peut-être taxer les cylindrées plus grosses.
Donc, si tu as les moyens d'acheter une grosse voiture, un gros cylindré, peut-être tu as les moyens de payer la contribution additionnelle. Puis encore une fois, ceux qui sont le plus dans le trouble, c'est pas ceux qui achètent le gros modèle, la routière de BM ou l'Audi. Tu leur donnes un incitatif. Donc, t'aides des gens, puis t'aides plus c'est progressiste comme mesure et ça aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, faites attention.
Tu nous mets devant nos contradictions un petit peu, pas le journée.
J'essaie de le faire sur une base quotidienne, Bernard.
Oui, puis t'es pas mal efficace en ce domaine. Très bien. Est-ce que c'est ta conclusion?
Tout à fait.
Très bien. Merci beaucoup, mon cher Paul Journet. On va retourner à Daniel. Daniel Leblanc, manque de pot en Ontario et on manque de potes?
On manque de potes. Apparemment, le pot, c'est une mauvaise herbe. Tout le monde sait comment en faire pousser, mais quand c'est le gouvernement qui s'en charge, ça va moins bien. Et donc, l'Ontario avait déjà remis à plus tard l'ouverture de ses magasins, donc les vrais magasins, là, en briques et avec des devantures et sur la rue. Donc, depuis le 17 octobre, l'Ontario vend du pot en ligne. L'ouverture des magasins doit avoir lieu le 1er avril. Mais hier, le gouvernement Ford a dit, écoutez, il manque de potes. Donc, on va offrir environ 25 licences au début. On parle de, là-bas, ça sera pas des magasins gouvernementaux, là, comme la Société du cannabis du Québec ici. Ouais. Ça va être des magasins privés. On parle jusqu'à 1000 magasins en Ontario.
Est-ce que c'est des magasins, rappelle-nous, Daniel, est-ce que c'est des magasins exclusivement dédiés à la vente de potes ou ça pourrait être, mettons, un dépanneur du coin qui devient licencié?
Non, c'est ça. On demande des dispensaires. Là. On demande des vrais magasins de potes. On vend pas l'alcool. L'alcool en Ontario, c'est vendu uniquement dans les magasins du gouvernement. Mais donc, il va y avoir des licences. Même des gens qui, peut-être, vendaient illégalement jusqu'avant le 17 octobre vont pouvoir réouvrir, mais avec un approvisionnement de compagnies, de fournisseurs, de producteurs accrédités par Santé Canada.
Mais 1000 magasins privés, c'est ça qu'il veut ouvrir, Doug Ford?
Oui, c'est ça. Il devrait en avoir des plus petits, là. Tu sais, contrairement à ici, au Québec, où c'est des plus gros magasins qui servent plus de gens, là, bon, on parle plus de petites et moyennes entreprises. Mais pour l'instant, on parle juste de 25 commerces au début, tirés au sort, parce que on dit que l'approvisionnement est pas suffisant, que les producteurs licenciés là avec la licence, un permis de Santé Canada, ils produisent pas assez, ils sont pas capables de répondre à la demande. Ça va venir, j'imagine, avec le temps, mais pour l'instant, la fameuse pénurie qu'on appréhendait semble se matérialiser en Ontario, et c'est un autre sujet de discorde entre Doug Ford et Justin Trudeau.
Ah oui, il dit que c'est la faute d'Ottawa?
Oui, mais il dit que c'est... Puis c'est vrai, c'est parce que dès le départ, le régime, là, c'est le fédéral qui accrédite les entreprises qui produisent le pot, puis ensuite, c'était aux provinces à distribuer et vendre le produit, ou à, au moins en superviser la vente et la distribution, mais c'est au niveau de la production là qu'il y a vraiment des ratés. Le processus a été très, très lent. Ouais. Au début, on demandait, là, c'était presque si on demandait à des gens d'ouvrir une banque avec un coffre-fort, avec des clôtures partout, des caméras partout. Finalement, c'est un produit comme un autre, mais au fédéral, on demandait, c'était très, très exigeant, toutes les demandes en termes de logistique et les entreprises, ça leur coûtait cher et n'arrivent pas encore à atteindre le niveau de production nécessaire pour répondre à la demande de cannabis légal.
On se console, en tout cas, Daniel, parce que nous autres ici, on manque de potes au Québec. Fait que là, on se dit, il en manque en Ontario également. Fait que ils sont pas mieux que nous autres, finalement. Là.
C'est le fédéralisme.
Daniel Leblanc, journaliste au Globe, ça a été un plaisir. Merci d'avoir pris le relais.
Merci.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. On se reparle lundi?
Je l'espère.
T'es mon haïssable préféré.